Et voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. En Indonésie, un tsunami a dévasté les côtes de Java et Sumatra samedi soir et les secours commencent à faire le décompte des victimes. Le bilan officiel s'établit à 280 morts, mais il pourrait être beaucoup plus lourd. Nous serons avec Joël Brenner, et tenterons de comprendre les causes de ce raz-de-marée volcanique.
Et puis aux États-Unis, le shutdown commence, une période de paralysie de l'administration fédérale due à une impossible discussion budgétaire. C'est le sujet du mur à la frontière mexicaine qui divise le Congrès.
En France, retour judiciaire sur un mois de manifestation des Gilets jaunes. Emmanuel Leclerc nous dira où en sont les diverses poursuites.
Le SAMU de Seine-Saint-Denis en grève aujourd'hui pour dénoncer le manque de personnel dans les centres d'appel du 15.
Enfin, nous irons à Bethléem où la basilique de la Nativité a retrouvé des couleurs juste avant Noël. Reportage d'Étienne Monin à la fin de ce journal. 280 morts déclarés, mais sans doute beaucoup plus dans les heures et les jours à venir. Les secours indonésiens s'efforcent dans la fébrilité de retrouver des survivants du tsunami qui a dévasté donc les côtes de Java et de Sumatra samedi soir. Cette vague a immédiatement suivi une éruption volcanique du volcan Anak Krakatoa et d'autres vagues mortelles pourraient suivre, préviennent les sismologues. La plage de Karita, destination touristique courue sur la côte ouest de Java notamment, est jonchée de débris. Les précisions sur place de notre correspondant Joël Brenner.
À l'ouest de Java comme au sud de Sumatra, ce n'est pas à Noël que les habitants se préparent, mais à une nouvelle catastrophe potentielle. L'Anak Krakatoa, comme l'appellent les Indonésiens, est une île volcanique. Ce volcan est pour l'heure toujours très actif et sa structure sous-marine a été fragilisée par l'éruption de ce week-end. Autrement dit, les volcanologues préviennent qu'un nouvel effondrement d'une partie de sa base, comme cela s'est produit samedi, pourrait tout à fait engendrer un nouveau raz-de-marée sur les côtes avoisinantes. Ce tsunami a en tout cas marqué les esprits en Indonésie en raison des dégâts impressionnants qu'il a produits. À l'image de cette vidéo d'un concert interrompu dans l'ouest de Java par l'intrusion de l'océan qui renverse brutalement la scène et crée la panique dans l'assistance. Comme pour les récentes catastrophes naturelles qui ont frappé l'Indonésie depuis cet été, sur l'île de Lombok puis dans la ville de Palu, l'armée et le personnel de l'Agence nationale des catastrophes se retrouvent ensemble sur les terres que la nature a saccagées, pour tenter une nouvelle fois de panser les plaies d'un archipel meurtri et soumis à la loi des séries. Des séries auxquelles l'Indonésie est habituée puisque l'archipel, composé de plus de 13 000 îles, est situé sur une zone baptisée la ceinture de feu du Pacifique. Cette ceinture comporte près de 130 volcans actifs et la rencontre de trois plaques tectoniques en sous-sol y occasionne une activité sismique intense et régulière.
Une région donc à fort risque sismique, mais dans ce cas particulier, on parle de tsunami volcanique. Explication de ce phénomène avec Jacques-Marie Bardin-Zeff, vulcanologue, géographe, professeur à l'Université Paris-Sud Orsay.
L'Anak Krakatoa est bien connu, il est en éruption depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais il y avait eu un regain d'activité au cours des dernières 48 heures. Donc ce n'est pas des éruptions extraordinaires, mais qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc c'était l'éruption de trop qui a fait que la stabilité de l'édifice a été mise à mal. Un flanc est tombé, donc éruption fait glissement de terrain, un micro-séisme, mise en mouvement d'eau, tsunami, dégâts et malheureusement des victimes. Depuis plusieurs mois, un tsunami pouvait être craint, on ne peut pas évacuer les gens 6 mois avant. Et c'est vrai que cette éruption qui a eu lieu n'était un peu plus forte que d'habitude, mais pas énorme. Donc c'est vrai que le problème, c'est que les côtes qui ont été touchées sont très proches du volcan, on va dire entre 30 et 50 kilomètres. Et comme les tsunamis vont entre 100 et 700 kilomètres à l'heure, eh bien c'est atteint en quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, donc on n'a pas le temps de prévenir les gens.
Le vulcanologue Jacques-Marie Bardin-Zeff, on rappelle que ce tsunami a fait 280 morts officiellement et des milliers de blessés. L'Agence nationale indonésienne des catastrophes prédit un bilan beaucoup plus lourd. Il promet d'éradiquer ce qu'il reste de l'État islamique en Syrie. Ce sont les mots du président turc Erdogan, cités par Donald Trump ce matin. Réaction turque donc à l'annonce du retrait des forces américaines de Syrie. Un retrait entériné cette nuit par la signature d'un décret. 2000 militaires américains stationnés dans le nord-est de la Syrie devraient quitter lentement le territoire où ils luttaient aux côtés des milices arabo-kurdes contre les djihadistes. Cette décision américaine a été vertement critiquée par Emmanuel Macron en visite au Tchad. Le président français a estimé qu'un allié se devait d'être fiable et il a appelé les États-Unis à la responsabilité quant à l'avenir des combattants kurdes menacés par les troupes turques. Enfin, Emmanuel Macron et son homologue tchadien Idriss Déby ont évoqué hier une autre menace djihadiste, celle de Boko Haram qui s'est s'étend territorialement auprès du lac Tchad. Les deux gouvernants, les deux chefs d'État jugent crucial de financer la force du G5 Sahel, composée de 4000 hommes et destinée à lutter contre les groupes djihadistes dans la bande sahélo-saharienne, une force qui n'est pas encore pleinement opérationnelle. Les États-Unis se préparent au shutdown, cette impasse budgétaire qui, jusqu'à ce qu'une solution ait été trouvée, paralyse les administrations fédérales et bloque notamment les salaires des fonctionnaires. Le Congrès, en effet, n'a pas réussi à s'entendre sur le budget 2019 et c'est un point précis qui a bloqué les discussions, le mur, ce mur que Donald Trump a promis d'ériger à la frontière mexicaine pour stopper l'immigration. Il devrait coûter 5 milliards de dollars et pour l'instant, la majorité n'est pas suffisante pour adopter une loi budgétaire. Les débats sont donc stoppés le temps de Noël. À Washington, Loïc Loury.
À New York, la statue de la liberté est restée ouverte. C'est l'État qui paye. À Washington, les sites en plein air sont également accessibles, mais pas les toilettes publiques ou le centre pour visiteurs de la Maison Blanche. Voilà les premiers effets du shutdown. Démarré samedi, les touristes ont aussi eu la mauvaise surprise de trouver certains parcs nationaux fermés. Les fonctionnaires fédéraux, eux, sont pour l'instant épargnés. Tous les salaires seront versés jusqu'au 28 décembre. Le problème se posera ensuite en cas de shutdown de longue durée. Le Sénat ne se réunissant pas avant le 27 décembre avec de faibles chances d'accord, le bras de fer pourrait traîner jusqu'à début janvier et l'arrivée d'une majorité démocrate à la Chambre. Si le scénario est celui-ci, 800 000 personnes seraient affectées, la moitié serait tout bonnement réquisitionnée sans être payée dans l'immédiat, dans les aéroports, aux frontières, dans les prisons ou les hôpitaux fédéraux. Les autres resteront à la maison sans certitude quant à leur salaire. Dès aujourd'hui, il faudra aussi observer l'ouverture de la bourse de Wall Street pour une séance raccourcie après un plongeon la semaine dernière. Donald Trump, lui, suivra tout cela depuis la Maison Blanche. Le président a annulé ses vacances en Floride.
Loïc Loury.
8h07 sur France Culture, la suite des matins avec le journal d'Anne-Laure Chouin en France. Après l'acte 6 des Gilets jaunes, le gouvernement veut rétablir l'ordre.
Oui, hier, l'exécutif a insisté sur les débordements qui ont eu lieu en marge des manifestations de Gilets jaunes. Ce week-end, des manifestations en nombre plus restreint, 38 600 manifestants, dont 2000 à Paris, et aux violences plus circonscrites, mais avec des connotations parfois franchement antisémites. Ainsi, plusieurs personnes à Montmartre ont fait le signe de la quenelle, idem dans le métro parisien. À Angoulême, un mannequin à l'effigie du président français a été décapité. Et puis à Paris, des policiers à moto ont été pris à partie et blessés. Emmanuel Macron a appelé au rétablissement de l'ordre et son premier ministre, Édouard Philippe, a condamné ce qu'il a qualifié de violence inouïe. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, notamment pour violences volontaires. Et puis, un mois après le début du mouvement, les gilets jaunes violents des débuts, pour ainsi dire, ont parfois été retrouvés par la police. Les précisions d'Emmanuel Leclerc.
Sur le pillage du magasin sous l'Arc de Triomphe, les enquêteurs disposent de plus d'une centaine d'empreintes relevées, des heures de vidéos analysées qui ont déjà permis d'aller arrêter notamment un suspect dans le Doubs, un homme de 30 ans installé dans un corps de ferme avec ses fusils de chasse et dans sa bibliothèque un certain nombre de livres prisés par la mouvance néo-nazie. Un autre casseur, catalogué comme proche de groupuscules d'extrême droite, a lui été interpellé parce qu'il avait laissé certains messages sur un forum de discussion internet avec notamment un activiste de la mouvance ultra-gauche. Des vidéos les montrent ensuite en train de casser ensemble sur plusieurs avenues de la capitale. Par contre, plusieurs affaires parmi les plus graves restent encore non élucidées. C'est le cas à Paris pour le policier lynché avec mâchoire et nez cassé, ainsi que pour le gendarme mobile qui a reçu une bombe agricole bourrée de clous et de boulons qui ont transpercé ses protections. Enfin, à Narbonne, où les gendarmes cherchent toujours à coincer les auteurs de l'incendie criminel de la gendarmerie d'autoroute, où le personnel a juste eu le temps de s'échapper par derrière.
Emmanuel Leclerc, des gilets jaunes qui ont fait florès un peu partout dans le monde, nous l'avons évoqué dans ces journaux. Hier, c'était à Beyrouth, la capitale libanaise, que plusieurs personnes arboraient ce gilet devenu symbole de contestation. Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées dans le centre-ville pour réclamer des réformes politiques alors que le pays est sans gouvernement depuis 7 mois. Les précisions sur place d'Aurélien Colli.
Des groupes créés sur Facebook pour appeler à manifester, un slogan « Je descends dans la rue » qui a tourné sur les réseaux sociaux, des photos de gilets jaunes frappées du cèdre libanais. La fièvre française a inspiré ici, mais les points communs s'arrêtent là. Car si des dizaines de milliers de Français se sont mobilisés, il n'était que quelques centaines hier dans le centre de Beyrouth. Car si les Français réclamaient la baisse des taxes qui minent leur pouvoir d'achat, les Libanais dénoncent eux la corruption qui ronge leur système politique. Leur pays est classé à la 143e place par l'ONG Transparency International. Dans la ligne de mire de ce mouvement, la classe politique, minée par les divisions confessionnelles héritées de la guerre civile, est soumise aux luttes d'influence de toute la région. 7 mois que le pays n'a pas de gouvernement, 7 mois qu'il s'enfonce dans la crise, avec un déficit multiplié par 2 en un an, avec une dette qui explose, avec un chômage à plus de 20% et avec un État toujours incapable d'offrir le plus élémentaire, l'eau, l'électricité ou encore des services publics qui fonctionnent à peu près. À Beyrouth, les manifestants ont réclamé aussi l'accès gratuit aux soins, le retour des prêts au logement et une lutte efficace contre la pollution qui défigure le pays. Quelques échauffourées en fin de manifestation, quelques poubelles brûlées. Mais là encore, on est loin des dérapages français, car ici dans la rue, il y a déjà l'armée. Pas d'occupation de rond-point non plus, même si un nouvel appel à se mobiliser mercredi a été lancé.
Aurélien Colli, le djihadiste français Peter Chérif, recherché depuis 2011, arrêté le 16 décembre dernier à Djibouti, a été expulsé vers la France. Il a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue hier. C'était l'un des djihadistes les plus recherché au monde. Il était l'un des cadres d'Al-Qaïda au Yémen. Il manque de personnel pour répondre aux appels. Les SAMU d'Île-de-France ont reçu hier une aide de l'Agence régionale de santé de 2,5 millions d'euros pour tenter d'éviter de nouveaux drames humains. L'objectif, c'est notamment de répondre à 90% des appels passés aux SAMU en moins d'une minute. Objectif loin d'être atteint, notamment dans les centres d'appel de Paris et de Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, où les syndicats du SAMU ont maintenu leur appel à la grève pour aujourd'hui. Écoutez Raphaël Timon, régulateur téléphonique au SAMU de Seine-Saint-Denis.
Lorsque vous appelez au 15, vous pouvez être amené à devoir attendre qu'on décroche votre appel et ça peut être problématique dans des cas d'extrême urgence ou des cas urgents tout simplement. C'est tous les jours, hein. Vous avez des appels qui attendent plus de 3, 4, 5 minutes avant d'être décrochés et donc ce sont des appels potentiellement graves. Donc, et dans ce lot d'appels qui attendent, ils peuvent avoir des arrêts cardiaques. Hein. Si votre grand-mère elle vient de faire un malaise, elle vient de s'écrouler et que vous appelez à ce moment-là, il va avoir du retard dans la prise en charge. On estime qu'on ne peut plus travailler en sécurité, ni pour nous, ni pour les patients surtout, à cette période de l'année. C'est une période assez chargée. Il y a les épidémies hivernales, il y a les fêtes aussi qui arrivent, et avec son lot, voilà, les débordements, les fêtes, les choses comme ça. Et donc, c'est une période particulière. Là, c'est vraiment un ras-le-bol, c'est un trop-plein, et on ne peut plus travailler en sécurité dans notre département avec le peu d'effectifs qu'on a.
Des propos recueillis par Thibault Lefebvre. Elle aura retrouvé sa splendeur juste à temps pour Noël. À Bethléem, la basilique de la Nativité, couverte de siècles de suie et de pollution, a révélé ses mosaïques originelles après une rénovation de 15 mois. Des échafaudages entourent encore quelques parties du chœur et le sol n'a pas été entièrement restauré. Mais le monument pourra accueillir les pèlerins pour la messe de Noël et éventuellement accueillir de nouveaux visiteurs. Le reportage à Bethléem de notre correspondant Étienne Monin.
Quand on regarde la couleur des mosaïques sur les murs ou la finesse des figures qui sont réapparues sur les colonnes, on constate que la basilique a retrouvé une jeunesse. Afif Touémé, en charge du projet pour l'autorité palestinienne.
Vous pouvez lire l'histoire maintenant, vous pouvez la sentir. Ça donne de la chaleur à cette église.
La rénovation de cet édifice est à la fois une opération de sauvetage et une course d'obstacles. Les murs abritent 3 communautés religieuses qui cohabitent tant bien que mal, dit le père Eugenio Aliata, spécialisé dans l'archéologie chrétienne.
Si une des communautés commence à faire des travaux dans la basilique, immédiatement les autres communautés vont appeler la police.
La basilique de la Nativité n'avait pas été sérieusement restaurée depuis 2 siècles. Le toit n'était plus étanche. Il a fallu l'action de 2 présidents palestiniens pour lancer les travaux, d'après Imad Nassar, membre du comité qui pilote le projet.
Depuis que l'autorité palestinienne vient ici, depuis 1995, elle essaye de convaincre les églises de lancer la restauration. À chaque Noël, quand le président Arafat venait ici, il leur reposait cette même question sur la restauration.
Au départ, le chantier concerne le toit et la charpente, mais par glissement, grâce à l'addition de financement, ces travaux se sont étendus aux ouvrages d'art.
Étienne Monin, et vous pouvez retrouver ce reportage sur notre site franceculture.fr. Et puis c'est un succès de taille pour la société d'Elon Musk SpaceX, qui a enfin réussi à lancer hier un satellite de navigation militaire américain après 4 essais. C'est un premier lancement d'une société privée pour une mission qui touche à la sécurité nationale américaine. SpaceX a mis des années à prendre pied sur le marché des lancements militaires, dominé notamment par Boeing. Un mot du temps de cette veille de Noël, il sera pluvieux de la Bretagne au centre-est, gris sur le sud-ouest, plus lumineux ailleurs, vent fort sur la Méditerranée et la Corse. Côté température, comptez de 5 à 11 degrés ce matin, jusqu'à 12 à 15 degrés près de la Méditerranée. Cet après-midi, il fera de 6 à 9 degrés de la Normandie et des Hauts-de-France au nord-est, 7 à 14 degrés ailleurs, jusqu'à 19 degrés sur l'extrême sud-est.